Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Eh bien, merci d'être à l'écoute. Nous allons aujourd'hui aborder de l'histoire récente puisqu'il s'agit de la période des Trente Glorieuses. Et pour ce faire, j'ai fait appel à un invité bien connu dans notre département que je laisse se présenter.
Voilà, s'il me faut me présenter, disons que je suis un Périgourdin et que c'est à ce titre que je me suis intéressé à la vie, à l'histoire du Périgord et à son actualité, à ses évolutions que j'ai pu observer comme élu, comme enseignant, comme membre de diverses associations culturelles. Enfin, sous divers angles, j'ai eu la chance de pouvoir voir évoluer cette région.
Bien, je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu Gérard Fayol, qui, pour nous, membres de la Société historique et archéologique du Périgord, fut notre président pendant pas mal d'années, et qui a été également président de l'Institut Eugène Leroy. Et je l'ai invité tout particulièrement pour nous parler des Trente Glorieuses, thème qu'il a abordé dans un ouvrage « Le Périgord des Trente Glorieuses, chronique du temps des changements », paru chez Fanlac en 2015. Alors, en préambule, pouvez-vous nous définir les Trente Glorieuses ?
Alors, les Trente Glorieuses, c'est l'expression de Jean Fourastier, qui est un économiste qui a trouvé cette expression en 1979, c'est-à-dire quand les Trente Glorieuses étaient terminées, puisqu'il a fallu faire le calcul et s'apercevoir que de 1945 à 1975, il y avait eu une période d'expansion générale de la France et que cette période s'est terminée assez rapidement, assez brutalement, vers les années 75. Et le géographe et sociologue a trouvé ce joli nom de Trente Glorieuses qui embellit quelque peu la réalité.
C'est donc le premier choc pétrolier qui a sonné le glas de ces 30 années.
Le choc pétrolier de 74 a fait que l'évolution s'est brusquement arrêté et que est apparu vraiment à sa dimension actuelle le chômage.
Et dans cette période de 30 années, je crois que vous avez établi une chronologie avec des périodes, des sous-périodes.
Oui, on peut dire en gros qu'il y a l'après-guerre et puis la période vraiment de l'expansion, parce qu'il faut quand même penser qu'en 1945, nous sommes au lendemain d'une guerre européenne terrible, d'une guerre mondiale, donc un grand bond en arrière de l'économie et de la vie quotidienne des gens, de privation, de toutes sortes de choses auxquelles ils commençaient à s'habituer avant-guerre et qui disparaissent, qui ont disparu, et qu'ils vont retrouver peu à peu. Mais en quelques années, dans les années 50 et 60, il y aura encore des tickets et du rationnement et des difficultés pour trouver de l'essence et des produits de première nécessité. Par conséquent, il y a une partie de démarrage des Trente Glorieuses, si on peut dire, qui est quand même une période de restriction et de découverte d'un monde nouveau apporté souvent par l'Amérique.
Et ces Trente Glorieuses, nous allons voir tout à l'heure spécifiquement comment elles se sont traduites en Périgord. Mais est-ce que c'est un phénomène purement français? Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est mondial?
C'est-à-dire que c'est européen, on peut dire, puisque c'est le lendemain de la guerre et le redémarrage d'une économie aidée par le plan Marshall américain et par la paix, bien entendu, avec l'essor du commerce et du commerce international et la reconstruction d'un continent qui avait été ravagé, avec aussi des aspects moins glorieux, puisque les guerres coloniales ont continué, notamment, et pendant de nombreuses années, donc il y a eu quand même des séquelles du monde d'avant.
Mais en y réfléchissant, je m'aperçois qu'il y a eu aussi, vers le milieu de ces Trente Glorieuses, une construction qui a été celle de l'Union européenne.
Alors, l'Union européenne, oui, a commencé très sérieusement dans les années 60 avec le traité de Rome. Mais les premiers pourparlers, la réconciliation franco-allemande ont commencé bien avant. Et c'est vrai que cette période a été la période de construction d'une nouvelle Europe qui était une idée tout à fait révolutionnaire.
Bien. Alors, nous allons en venir maintenant aux particularités des Trente Glorieuses pour le Périgord. Mmh. Et je crois que pour vous, la caractéristique principale, c'est une mutation.
Une mutation d'une société rurale qui va se transformer complètement dans sa démographie et dans ses mœurs. Dans sa démographie, c'est-à-dire que, en dépit des progrès de l'agriculture, qui sont très importants, et notamment les équipements agricoles, la Dordogne est un des départements qui a le plus de tracteurs par exploitation, par habitant. Et donc, un département qui, en dépit d'une certaine expansion agricole et d'une modernisation, voit quand même un très important exode rural, puisqu'il faut moins de monde à la ferme, et que la main-d'œuvre devient disponible, et fort heureusement, des entreprises, même si la Dordogne n'est pas un département, ne devient pas un grand département industriel, fort heureusement, des entreprises existent qui vont absorber cette main-d'œuvre en surplus fournie par l'agriculture qui n'a plus besoin de tous ses bras. Et donc, on a des entreprises qui vivent dans le monde rural, qui se développent, des entreprises industrielles, comme Marbot, par exemple. Mais vous avez, si vous prenez une industrie plus diffuse dans le secteur de Nontron, l'industrie de la pantoufle, qui emploie jusqu'à 600 personnes. Vous avez le Bergeracois avec la poudrerie de Bergerac, qui est une grosse boîte, ou au Lardin aussi, l'expansion de l'industrie chimique. Donc, il y a, même si encore une fois, ce n'est pas un grand pôle industriel, un développement qui permet de compenser l'exode rural.
Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de spécifique au Périgord ?
Alors, de spécifique aux sociétés rurales, c'est vrai que la société rurale traditionnelle disparaît sous deux aspects au moins, d'après ce qu'ont noté les historiens de l'époque, comme Pierre Nora, par exemple. C'est la fin d'une civilisation chrétienne rurale qui avait des rituels, des mœurs Le christianisme était très, très présent dans tous les actes de la vie, presque de la vie quotidienne, en tout cas de la vie, depuis le baptême jusqu'aux obsèques, et la fréquentation des cérémonies religieuses et de la messe était très importante, les chiffres le prouvent, et où, pas brusquement, mais assez rapidement quand même, une déchristianisation va se produire qui fait que les mœurs vont se libérer, comme on dit, et il y a cet événement, cette disparition des rituels qui, même s'ils continuent quand même, ne sont plus la participation de la majorité des gens, ou d'une grande majorité. Alors c'est une évolution très importante.
Sur le plan politique aussi, il y avait un peu dans ces années-là une opposition entre la droite traditionnelle et la gauche communiste. Alors, à la suite de la guerre et de la résistance, peut-être.
Oui. Alors, la vie politique a évolué. Il y aura plusieurs phases dans la vie politique. C'est vrai qu'au lendemain de la guerre, avec la résistance et les partis qui ont assumé cette résistance, le Parti communiste notamment est très, très important en Dordogne, il y a des représentants nombreux et qualifiés comme Yves Perron, Lucien Dutard, Roger Ranoux, qui font des carrières politiques, et a un électorat important. Et l'autre parti, c'est qui lui représente la tradition, c'est le Parti radical, qui est évidemment, qui a subi un choc parce que Georges Bonnet, son principal leader, s'est trouvé un moment à Vichy et a dû après aller quelque temps en Suisse. Et en revanche, Yvon Delbos, autre leader radical, lui a été déporté. Donc le Parti radical a cet aspect un peu double. Et puis le Parti socialiste va s'affirmer autour de Robert Lacoste.
Voilà. Et si je ne m'abuse, le MRP va aussi essayer de prendre un peu ses attaches. Et...
Oui, alors le MRP va essayer avec André Denis d'exister et de s'imposer dans les législatives et dans les élections régionales, mais sans grand succès à vrai dire, parce qu'il y a quand même une occupation très forte du terrain par le Parti radical sous ses différentes variantes et ses différentes nuances qui sont nombreuses en Dordogne. Mais c'est lui qui occupe le terrain et le Parti socialiste autour du résistant Lacoste s'affirme et va, sous la 4e République, devenir le parti dominant. Et Robert Lacoste sera non seulement président du Conseil général, bien sûr, mais ministre très important du général de Gaulle et puis de l'Algérie.
Ministre résident, oui. Bien. Tout cela entraîne donc un grand essor économique. Et cet essor va ensuite, dans une deuxième période, petit à petit se déliter, se modifier.
Oui, mais en ayant quand même modifié complètement le paysage. Le paysage se modifie complètement, notamment avec l'arrivée de l'automobile. Parce que non seulement l'automobile n'avait pas encore vraiment pénétré dans le pays avant la guerre, mais elle a reculé, puisqu'il n'y a plus d'essence, on marchait avec des gazogènes, et il n'y avait plus de pneumatiques. Donc l'automobile était devenue le privilège de quelques rares médecins qui pouvaient, pour exercer leur fonction dans les villages, avoir une auto. Donc l'automobile va se développer très rapidement, mais avec une notion qu'on a oubliée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commandait une automobile pour recevoir la livraison plusieurs mois après. Il y avait on faisait la queue pour avoir une Peugeot qu'il fallait souvent aller chercher dans le Doubs ou une Renault à Billancourt et Citroën, etc. Donc une demande et une poussée et une grosse consommation d'automobiles qui change complètement la vie quotidienne. Parce que ce monde rural qui vivait chacun pour soi dans son village devient un monde où la communication et les rencontres sont bien plus nombreuses, et le travail aussi. On peut travailler loin de sa résidence, etc. Donc l'automobile, la radio et puis la télé qui va finir par arriver changent complètement la vie quotidienne. Donc avant de connaître la crise, on va profiter pleinement de cette expansion qui se manifeste pour les grandes foires expositions, etc., pour de nombreuses manifestations qui attirent un grand public.
Et là, cette histoire de l'arrivée de l'automobile m'évoque un peu, puisque je m'intéresse aussi un peu aux autos anciennes, ça m'évoque le cahier des charges de la deux chevaux. Citroën, qui était tourné vers le monde rural et agricole. Et dans le cahier des charges, il fallait qu'elle puisse transporter à la fois le conducteur et un passager, un sac de pommes de terre, mais aussi un panier d'œufs, et que les œufs arrivent et traversent le champ sans être cassés.
Et oui, mais c'est tout à fait le rôle de cette voiture.
Voilà, nous allons prendre une petite pause musicale.
Bye.
Voilà. Donc, l'essor qui a été celui de l'activité, en particulier de l'activité industrielle au début des Trente Glorieuses, a connu ensuite des crises. Et je serais intéressé que vous puissiez nous parler de ces différentes crises et des différents niveaux où cela a frappé la société et l'économie.
C'est-à-dire qu'il y a eu des crises engendrées par le progrès lui-même, comme par exemple celle du petit commerce. Et avec l'essor très rapide aussi des grandes surfaces, qui sont moins grandes à l'époque que ce qu'elles sont aujourd'hui, mais qui sont grandes par rapport aux boutiques, qui étaient d'ailleurs mal achalandées ensuite de la guerre, et qui commençaient à s'équiper, mais à un moment même apparaissent ces grandes surfaces dans les environs et les immédiats des villages et des villes, qui deviennent des lieux de rencontre et de rendez-vous avec la station-service, puisque la voiture est reine, la station-service joue un rôle central, c'est un lieu de rencontre et un passage obligatoire. Donc tout ce monde de nouveau du commerce détruit le commerce traditionnel. Et c'est on voit l'essor, en Dordogne notamment, du poujadisme. Et Pierre Poujade a passé en Dordogne, il a eu du succès, évidemment, comme ailleurs, et de nombreux députés le moment venu, puisqu'ils étaient plus de 50 à la Chambre, et venus souvent du monde rural, parce que c'était justement cette crise du petit commerce qui ne se relèvera jamais complètement de cette concurrence des grandes surfaces. Vous avez la crise agricole, avec, je l'ai dit, l'exode rural, et le fait que il faut se souvenir que les prix agricoles, comme tous les prix, sont fixés par le gouvernement. Et que les prix agricoles entretiennent la mauvaise humeur et la colère des syndicats agricoles, parce qu'on trouve toujours, évidemment, qu'ils ne sont pas assez élevés. Et les manifestations sont très nombreuses, les manifestations agricoles. Le comité de Guéret est un comité qui regroupe dans le centre de la France rurale, pas très loin de la Dordogne, cette nouvelle opposition tout à fait déterminée des agriculteurs qui souffrent, ceux qui sont restés à la terre, souffrent des évolutions, des techniques, et des équipements qu'ils doivent faire, emprunter pour acheter le tracteur, etc.
C'est le prélude un peu à ce qu'on connaît maintenant. L'évolution des prix ayant été complètement modifiée par les subventions dites subventions européennes et la lutte des agriculteurs s'étant déplacée un peu vers l'augmentation des subventions.
Oui, alors le combat des agriculteurs continue sur le problème des prix finalement et avec qui va prendre de l'ampleur le problème des retraites, mais qui commence à éclater à cette époque. Les militants paysans comme Maurice Bouillou, etc., vont commencer leur action dès cette époque pour défendre les vieux agriculteurs qui n'ont aucune ressource. Par conséquent, il y a un combat de catégorie sociale qui ne profite pas des Trente Glorieuses, plus évidemment les crises extérieures qui se répercutent, comme la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, on l'a connue, en Périgord, des gens, évidemment, qui ont été tués en Indochine. Mais la guerre d'Algérie, c'est plusieurs centaines de morts qui, dans de nombreux villages qui sont affectés par cette guerre qui va durer des années et qui mobilisera 500 000 hommes, dont le patron sera le Périgourdin Robert Lacoste, justement.
Et l'industrie elle-même connaît aussi une crise. Le chômage va revenir.
Alors le chômage, oui, va revenir et parce que cette expansion va se trouver freinée par la concurrence internationale, par les prix, par le fait que toute l'Europe se libère un peu des contraintes et que l'économie n'est plus protégée entre guillemets. Par conséquent, avec le blocage de la poussée du prix du pétrole, qui détermine tous les prix de l'économie, le bon temps, qui, entre guillemets, est terminé, et on passera bientôt des mille et quelques chômeurs déclarés en Dordogne aux 20 000 dans les que nous connaissons aujourd'hui. Enfin bon, on ne va pas se passer tout immédiatement, mais enfin, la progression du chômage va être assez fulgurante.
Il y a une autre manière de voir les choses aussi pour la Dordogne, c'est le problème de l'enclavement. Mais là, on peut dire peut-être que l'automobile a permis un peu de désenclaver la Dordogne.
Oui, l'automobile a permis, oui, quand même, parce que c'était un enclavement beaucoup plus fort. Et on a profité quand même d'une manne, le tourisme. Alors, ça a été quand même aussi un point de développement important grâce à des phénomènes ou à des événements significatifs comme la découverte de Lascaux, qui a donné, renforcé puissamment l'image du patrimoine du Périgord dans un domaine tout à fait exceptionnel et où il était champion, la préhistoire, et l'image aussi de son patrimoine de château grâce à Joséphine Macaire.
Qui est à Malraux.
Oui, mais qui avait une notoriété internationale. Et qui avait, dans son château des Milandes, été connu du monde entier, aidé par la télévision et la radio et les spectacles, qui fait que l'image du Périgord, son patrimoine a été révélé avec le rôle d'André Malraux, qui a restauré Sarlat, qui a entrepris Sarlat, une des premières villes qui a été restaurée, qui en a profité pour faire aussi un festival de théâtre, qui a été un des premiers après celui d'Avignon en France. Donc il y a eu des événements culturels et des découvertes préhistoriques qui ont joué un rôle déterminant. On peut penser aussi, parce qu'il n'a pas de rapport, mais qui a joué dans les mentalités, le succès de certains chefs d'entreprise comme Sylvain Flora, qui fait que l'économie et l'optimisme étaient de mise, parce qu'on voyait que des chefs d'entreprise pouvaient réussir en partant de rien et créer un véritable empire.
Et que par ailleurs, ils s'arrangeaient aussi pour qu'il y ait toujours des retours vers leur région d'origine.
Et qui, en plus, n'avait pas oublié tout à fait sa région d'origine, puisqu'il a été président de la Chambre de commerce à Périgueux. Il a été le promoteur de la truffe, qu'il a encouragé les plantations et l'agriculture en général. Il avait un domaine agricole lui-même très important qu'il a mis en valeur. Il n'a jamais oublié le Périgord. Et un de ses amis, Paul Souriau, industriel comme lui, est venu au Bugue à ce moment-là et a créé le village du Bournat qui existe aujourd'hui. C'est donc des retombées de cette période de développement de quelques chefs d'entreprise.
Retombée et en même temps une mutation économique, qui fait qu'on peut presque dire à l'heure actuelle que le tourisme est devenu la principale industrie du Périgord.
C'est devenu une industrie qui a presque, puisqu'il y a du chômage, elle n'y a pas réussi totalement, mais en partie essayé de compenser le chômage engendré par les évolutions et la crise. Et le tourisme a quand même créé des milliers d'emplois. Et effectivement, c'est devenu un des postes importants de l'économie périgourdine qui s'est développé. Alors, bien qu'il y ait eu la fermeture de Lascaux en 63, puisque le site était menacé, il a fallu, André Malraux, c'est lui aussi qui a fait fermer Lascaux pour le sauver, reconstruire un fac-similé puis un autre, mais enfin, il y a eu quand même une action de mise en valeur importante de certains châteaux. Le château d'Hautefort qui a brûlé, qui a été reconstruit par sa propriétaire en 1968, et des châteaux mis en valeur comme Castelnau, Marqueyssac, Beynac, etc.
Avec également un retour aussi du côté de l'agriculture, puisque sans le tourisme, il n'y aurait peut-être pas le développement des produits régionaux et du travail de conserverie, par exemple, des agriculteurs que l'on voit maintenant.
Tout est lié, oui, effectivement. Et l'image de qualité et d'authenticité des produits, comme l'image d'ailleurs du traditionnel du Périgord qu'on a essayé de sauver. Et l'Occitan, par exemple, est beaucoup de ce qui caractérisait notre civilisation périgourdine, qui attirait, qui plaisait aux touristes qui cherchaient de l'authenticité, de l'originalité.
Voilà. Vous parlez aussi, je crois, de certains néo-périgourdins qui ont apporté quelque chose, de ceux que vous appelez, je crois, les visiteurs qui ont enrichi le Périgord.
Bien, les visiteurs, ça a été plusieurs phases, mais il y a eu les visiteurs non désirés, comme l'envahisseur allemand, et puis il y a eu les visiteurs qui venaient compenser avant-guerre le dépeuplement. Et la chute de la démographie, c'était les agriculteurs italiens. Puis vous avez eu les réfugiés espagnols. Et puis vous avez eu les pieds noirs, qui ont mis en valeur des grandes propriétés, et des moins grandes, mais qui ont été une population nouvelle. Et les touristes, les Anglais, qui ont très rapidement, après la guerre, acheté des vieilles maisons qu'ils ont su restaurer avec beaucoup de goût et beaucoup de soin, mis en valeur tout un patrimoine qui était menacé. Donc il y a eu des arrivées de visiteurs, effectivement, qui ont renouvelé la population et créé du mouvement.
Et donc tout ceci a une conséquence sur la vie culturelle en Périgord, sur
l'évolution de la culture. La vie culturelle en Périgord a été alimentée par ces visiteurs et aussi par les habitants. Et un des symboles de cette vie culturelle, je trouve, c'est l'édition de Pierre Fanlac et les éditions du Périgord, qui fait que je dis quelquefois qu'un pays qui n'a pas d'éditeur n'existe pas. Eh bien, le Périgord existe parce qu'il y a eu des livres qui ont été édités sur place.
Et il continue à y en avoir.
Et qui continue à y en avoir, Dieu merci.
Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du Périgord ?
Il est plus facile de présenter le passé, mais je crois que ce qui est souhaitable, en tout cas, c'est de sauvegarder une identité, une image, puisqu'on parle du tourisme, mais aussi la qualité de la vie, et pour les habitants eux-mêmes, touristes ou pas, qu'il y a une identité du Périgord qui se conserve, avec la protection des paysages, de cette fameuse agriculture authentique et le plus possible protectrice de la nature, et tout ce qui a fait jusqu'à présent notre image et notre patrimoine.
Bien. Eh bien, Gérard Fayol, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, et que j'espère nos auditeurs vont apprécier.